Parce que d'une part, voilà. D'une part, certains d'entre vous m'ont demandé à la fois de revenir sur des points précis et d'une chose. Autre chose, j'étais pas content du tout de moi la dernière fois, parce que à la faveur d'un emportement, j'ai tout mélangé. J'ai mélangé beaucoup trop de choses. Alors, c'est pas que je vous fais pas confiance pour les séparer, mais je me dis, il n'y a pas de raison qu'après ça, vous vous disiez pas que Kant et Rob Grillet, c'est la même chose, je crois. Et pire encore, alors je voudrais aussi remettre un peu d'ordre. Et puis je voudrais avancer. Alors, et si vous en avez la patience, faire juste aujourd'hui, dans notre avancée, un tout petit peu de mathématiques, pas beaucoup, puisque je suis comme vous, un peu de mathématiques dont j'aurais très besoin pour la vie. Donc ce sera une séance austère et variée. Voilà. Première chose sur laquelle on m'a demandé de revenir, et là je voudrais être très rapide, mais c'est lorsque j'ai posé le problème qui doit occuper notre année, où je disais très rapidement, et ben voilà, la pensée a toujours présupposé une image de la pensée qui précédait toute méthode, c'est-à-dire qui présentait, qui préexistait à toute méthode, c'est-à-dire qui préexistait à toute démarche explicite de la pensée. Elle présuppose sa propre image. Et je disais, notre problème, c'est vraiment dans quelles conditions se fait et sous quelle forme peut se faire une rencontre entre l'image automatique et l'image de la pensée. Une fois dit que l'image automatique me paraissait la définition la plus générale de l'image de cinéma. Et c'est à ce niveau que, pour traiter notre question, les rapports pensée-cinéma, je disais, bon, ben, il s'agit de savoir comment se rencontrent l'image automatique et l'image de la pensée. Et on était parti là-dessus. Alors la question, un peu de lumière. Voilà. La question sur laquelle je voudrais revenir très vite, c'est en quoi toute méthode, tout exercice explicite de la pensée présuppose une image de la pensée. Je disais, l'image de la pensée qui est présupposée, c'est ce qu'on pourrait appeler, en empruntant le mot à Bakhtine, c'est ce qu'on pourrait appeler un chronotope, c'est-à-dire un espace-temps. Et ce que je veux dire, c'est ceci. La méthode, toute méthode de pensée en tant qu'elle guide la démarche de la pensée, a deux aspects. Un aspect spatial et un aspect temporel. Sous son aspect temporel, elle distribue l'avant et l'après. Dans quel temps? Ça, c'est déjà trop dire. Dans quel temps? D'après quel temps? Tout le monde sait que les temps sont infiniment variables. Ça n'empêche pas que une méthode distribuera dans un temps égal x ce qui, par rapport à ce temps, vient avant et vient après. Et dans toutes les méthodes, vous retrouvez ce problème. Je cite par exemple, ce problème même trouvera sa spécification, son nom sous l'appellation générale de un ordre des raisons. Ce qui veut bien dire que ce n'est pas forcément un avant et un après chronologique. C'est l'ordre des raisons. Et la première définition de la méthode, c'est que la méthode est un ordre des raisons. Et que ne vous échappe pas que chez les philosophes, bon, ben, ils n'ont pas la même méthode, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'ils n'ont pas le même ordre des raisons. C'est même pas qu'ils n'aient pas les mêmes raisons. avant d'avoir ou pas les mêmes raisons, ils n'ont pas le même ordre des raisons. Par exemple, ils ne commencent pas pareil. La question de par où commencer en philosophie a toujours été une question sacrée. Par quoi commençais-je? Par quoi commencer? Alors bon, là-dessus, on nous dit que les philosophes, comme ils ne sont jamais d'accord les uns avec les autres, ils varient. Les uns nous disent ceci, les autres nous disent cela. Cette vision de l'histoire de la philosophie est extrêmement triste, sombre, lugubre. C'est pas sûr que... Parce qu'on oublie la question, mais d'où viennent de telles différences? Pourquoi est-ce qu'on oublie la question? D'où viennent de telles différences? Ils n'ont pas la même méthode. Pourquoi ils n'ont pas la même méthode? Sans doute qu'il faut remonter à quelque chose de présupposé. À savoir, s'ils n'ont pas la même méthode, c'est qu'une méthode, ça sert à résoudre des problèmes. Or, ils n'ont pas les mêmes problèmes. Bon. Moi, je suis scandalisé, on ne reproche pas à un savant d'avoir un autre problème qu'un autre savant. Et voilà qu'on reproche aux philosophes d'avoir d'autres problèmes les uns que les autres. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un ayant le même problème qu'un autre avoir d'autres solutions. Ça, j'ai jamais vu. Si vous avez le même problème que Kant, vous fatiguez pas. Allez voir Kant. Il l'a résolu, votre problème. Non, ce qui se peut, c'est que vous ayez des problèmes qui ne soient pas encore répertoriés. À ce moment-là, c'est à vous de les résoudre. Bon. Mais sinon, moi, je vois autant de rigueur dans la solution philosophique dans la solution scientifique d'un problème. Mais je dis, vous savez, on ne peut pas tout faire à la fois, on ne peut pas à la fois donner la solution que l'on croit bonne et dire en même temps le problème qu'on est en train de résoudre. Peut-être que le problème, ça ne peut même pas se dire. Peut-être que ça ne peut que s'inférer à partir de ces solutions, y compris en mathématiques. Par là, je voudrais juste vous faire pressentir que ce que j'appelle déjà image de la pensée, c'est un champ problématique. Et que la méthode, elle présuppose un champ problématique. Donc la méthode se présente comme un ordre de raison, et par là, elle est temporelle. Prenez un exemple comme celui de Descartes, les méditations métaphysiques. Il n'y a de soi que la nouveauté. Ça reste une nouveauté absolument éternelle, la nouveauté de ce texte. Ne serait-ce que l'emploi si insolite et varié du mot « je ». Qu'est-ce que veut dire le « je » ? Le « je » qui apparaît constamment dans les méditations de Descartes, a 36 sens, 40 sens. Lire les méditations, c'est se demander. Et à chaque fois, il ne va pas vous le dire, lui. Il ne va pas dire « attention, j'emploie « je », c'est à vous de vous débrouiller en tant que lecteur. » Faire la liste des sens du mot « je » dans les méditations de Descartes, ça, ce serait un très beau sujet de mémoire ou de thèse. À ma connaissance, ça n'a jamais été fait. Bon, voilà. Mais Descartes ne cesse d'insister sur ceci. Lui qui écrit un livre sur la méthode, il cesse d'insister sur ceci. Ce qui est essentiel dans les méditations, c'est, attention, c'est ce qui est avant et ce qui est après. Suivre l'ordre, suivez l'ordre des raisons, dit-il. Ce que je dis à la première méditation, ce que je dis à la seconde, ce que je dis à la troisième, pas du tout, ça se contredise. Il dit, si vous ne suivez pas l'ordre des raisons de l'avant et de l'après, il dit, vous ne pouvez pas comprendre ma pensée. Si bien qu'il y a des objections qu'on m'adresse à la seconde méditation qui n'ont aucun sens parce que elle renvoie à un problème que je ne peux poser qu'à la quatrième. Bon. Un ordre des raisons. Je dis que la méthode a cet aspect temporel, ordre des raisons, l'avant et l'après. C'est-à-dire distribution des raisons suivant l'avant et l'après, c'est-à-dire comme contenu d'une temporalité. C'est-à-dire que le temps et la pensée ont des rapports extrêmement profonds. Je dis que la méthode a un autre aspect spatial. L'autre aspect spatial, c'est quoi? C'est que là aussi, elle présuppose un espace. De même que toute méthode présuppose un temps qu'elle remplit par l'ordre des raisons, elle présuppose un espace qu'elle remplit par une distribution qui lui est propre, une distribution méthodique. Cette distribution dans l'espace, ou ce remplissement de l'espace mental, de l'espace pensé, tel que l'opère la méthode, implique, à mon avis cette fois-ci, non plus l'ordre de l'avant et de l'après, mais la détermination des buts, moyens et obstacles. Quel est le but? Chacun le sait. Le but, c'est la vérité. Vous ne direz pas si sûr. Si, il suffit de s'entendre, parce que quand je dis le but c'est la vérité, j'ai absolument rien dit. Donc, ça compromet rien, ça compromet personne. Quels sont les moyens? Là, les moyens, oh, je vois bien que ça varie d'après les méthodes. Bizarre. Il y a des méthodes d'après lesquelles la vérité sera toujours inférée à partir de quelque chose. Je conclus autre chose d'après des règles qui m'assurent la vérité de ce que je conclus. D'après d'autres méthodes, la vérité aura pour moyen et renverra à l'intuition. Et l'intuition, ça veut dire quoi? C'est pas un mot mystérieux, ça veut dire la présence. J'oppose là, si vous voulez, inférence et intuition. L'inférence, vous concluez à partir de ce qui est donné quelque chose qui n'est pas donné. L'intuition, vous faites surgir la chose en personne. Bien. Les obstacles, bon, c'est l'ensemble des choses, quelles qu'elles soient, qui s'opposent à l'obtention. Remplit un espace par la détermination des buts, moyens et obstacles. C'est juste pour vous faire sentir que, d'accord. Mais ce que j'appelle l'image à la pensée, c'est le chronotope, c'est-à-dire encore fallait-il un espace-temps. Et que cet espace-temps, d'où vient-il? Je dis l'image à la pensée, c'est l'espace-temps qu'elle présuppose et dans lequel elle évolue. C'est ce qui sera rempli par la méthode. Cet espace-temps, il est très concret, vous savez. C'est comme une espèce de petit roman philosophique. Je veux dire, et vous ne pouvez pas le trouver dans le texte des philosophes, car il est présupposé. Il est présupposé par tout ce qu'ils disent. Et pourtant, tout ce qu'ils disent l'évoque. Tout ce qu'ils disent le fait vivre. Je prends trois exemples. Mettons que Platon, Descartes et Kant veulent la vérité. Bon. Je constate que ils la poursuivent sous trois méthodes très différentes. Je constate que Platon, entre autres, nous expose longuement une méthode qu'il appelle dialectique et qui consiste à diviser diviser le concept en deux moitiés, en deux parties, choisir la bonne partie, suivant le problème, considéré, qu'il va diviser à son tour, etc. Je constate que Descartes procède tout autrement pour atteindre la vérité qu'il veut aussi. Il se sert d'une méthode qu'il présente comme analytique. Cette fois-ci, il s'agit de partir de la perception claire et distincte de quelque chose pour s'élever à la perception claire et distincte de la cause de cette chose. Bon. L'enchaînement des perceptions claires et distinctes formera l'ordre des raisons. Je constate que Kant invoque encore une troisième méthode, chacun inventant une méthode. Cette troisième méthode, mettons qu'il l'appelle transcendantale. Elle consiste à partir d'une chose, à se demander à quelles conditions la chose est possible. Il s'agit cette fois de remonter d'une chose aux conditions qui la rendent possible. Et c'est une nouvelle méthode qui érige avant tout, en principe de méthode, les conditions, la recherche des conditions de possibilité de quelque chose. À quelles conditions ceci est-il possible ? À quelles conditions les mathématiques sont-elles possibles ? Bien. C'est très abstrait tout ça. Ils veulent la vérité avec trois méthodes. Et en même temps. Voilà, j'essaie de raconter une histoire. Imaginez quelqu'un qui se dise « Mais c'est fou les prétentions que nous avons. » Tout le monde prétend à n'importe quoi. Il ne dira pas ça simplement pour les autres, il dira ça pour lui-même. Tout le monde prétend à n'importe quoi. Quoi qu'on dise, il y a toujours quelqu'un pour dire « Ah ben ça c'est moi. » C'est très vivant, ça. Je veux dire, on peut vivre comme ça. On est effaré par les prétentions. Celui qui émet une prétention, il a un nom. On l'appelle le prétendant. L'on peut prétendre à bien des choses. On peut prétendre à la main d'une femme. On peut prétendre à la sagesse. On peut prétendre à la folie. Si vous voulez, peu importe. On peut prétendre à la vérité. Voilà. Un monde peuplé de prétendants. Est-ce que je peux le justifier, ça ? Non. J'ai même pas envie de le justifier. Comment dire ? C'est, essayer de sentir, c'est un chronotope. C'est un chronotope en quel sens ? Ça implique tout un espace, tout un temps, tout un espace-temps. Qui va être l'espace-temps des prétentions. Où est-ce qu'ils vivent, les prétendants? Comment ils vivent? Il appartient aux prétendants de rivaliser. Ça implique ça, un espace particulier, l'espace de la rivalité. Chacun disant « c'est moi, c'est moi ». Chacun aura sans doute un moment favorable pour dire « c'est moi ». Peut-être est-ce qu'il n'est pas bon d'être le premier prétendant, peut-être qu'il vaut mieux laisser passer l'autre d'abord. Ça, imaginez cette espèce de chronotype du prétendant. Bon, très bien. Je dis Platon, il vit le monde grec comme ça. Bien plus, il vit la démocratie athénienne comme ça. Alors, ça l'unit avec le mythe. Je veux dire, l'Odyssée est une fameuse histoire de prétendants. Mais enfin, lui, ce n'est pas le mythe qui l'intéresse. Lui, ce qui l'intéresse, c'est un truc qui le laisse rêveur. Il le fait dire à Socrate plusieurs fois. Un cordonnier, personne prétend tellement être cordonnier. Il y a les cordonniers, et puis moi, je ne suis pas cordonnier, je ne prétends pas l'être. Il dit, mais en politique, ce n'est pas comme ça. Et ça, ça le trouble beaucoup. En politique, c'est tout le monde qui dit, moi, je suis bon en politique. Il dit, pourquoi? Tout le problème de Platon, ça va être d'une certaine manière, si on veut trouver la vérité, il faut un moyen de sélectionner les prétendants. Je dis, voilà le chronotype. Alors que ensuite, c'est son problème. Et ça, c'est du vécu. C'est du vécu pensé. Comment sélectionner les prétendants? Comment savoir quel est le juste prétendant? C'est une question de père de famille. On demande la main de ma fille. Quel est le bon prétendant? Alors, il y en a qui vont développer ça dans ce sens. Mais après Platon, mais sur Platon, il était... ils vont pas développer ça en disant ça. Mais ça va revenir singulièrement à ça dans le néoplatonisme. 1, 2, 3, c'est quoi? 1, 2, 3. 1, c'est l'instance qui donne, dans la triade néoplatonicienne. 1, c'est l'instance qui donne. 2, c'est le donnable. 3, c'est le prétendant. La justice, la qualité d'être juste, ceux qui prétendent à la justice. Si Platon fait toute une méthode qu'il appellera dialectique et qui consiste à diviser le concept toujours en deux moitiés, à prendre une moitié et à la rediviser encore, mais... Vous ne pouvez pas le comprendre, vous pouvez le comprendre abstraitement, mais à ce moment-là, vous me direz comme c'est ennuyeux. Si vous rétablissez l'image présupposée par ça, c'est... Comment sélectionner les prétendants? Et ça concerne les philosophes, vous comprenez, parce que les philosophes, ils prétendent à la vérité, mais c'est jamais les seuls. Il y a, comme dit Platon, il y a les sophistes, il y a les rhéteurs, il y a les orateurs qui disent non. Celui qui vraiment tient la vérité, c'est moi. C'est des prétendants. Il va falloir séparer, il va falloir trouver des épreuves de sélection selon Platon. Et Socrate, ben, selon Platon, a inventé cette méthode qui permet de trier les prétendants. À ce moment-là, le « je veux la vérité » de Platon prend un sens très concret. Son « je veux la vérité », c'est « je ne veux pas être trompé par les faux prétendants ». Voilà le chronotope. Je ne veux pas être trompé. Ils ne m'auront pas. Bon. D'où toute l'ambiguïté du personnage de Socrate, toute sa modestie là, toute sa modestie feinte, toutes ses dérobades. Il veut amener les autres à se trahir. Et toujours il invoque le thème de l'épreuve, comme l'épreuve d'un vase ou l'épreuve de l'or. Tout ça, c'est lié au thème de la prétention. Il y a des choses qui prétendent être des pièces d'or. Bon, ben à ce moment-là, il faut faire certaines épreuves pour savoir si c'est de l'or ou pas. Il dit, c'est pareil pour les âmes. Ah, il ne suffit pas de dire, je suis philosophe. Il suffit même pas de dire je déteste la philosophie. Il faut subir l'épreuve des prétentions. Je dirais, si j'essaie de résumer l'image de la pensée telle qu'elle apparaît chez Socrate et Platon, c'est du type, c'est très simple, c'est du type je ne veux pas qu'on me trompe. Et c'est ça, vouloir la vérité. Pour lui, je ne veux pas qu'on me trompe. Qui me veut te tromper? Tu vois pas, pauvre type, qui a les prétendants partout. Les prétendants m'assiègent. Je suis Pénélope. Et bien, Pénélope, elle a au moins un truc. C'est l'arc. Il y aura l'épreuve de l'arc pour déterminer le bon prétendant. C'est un chronotope. Bon, mais continuons. Bien des siècles se sont passés. Et voilà Descartes. Bon, il nous flanque une toute autre méthode. Lui qui veut la vérité. D'accord, il veut la vérité. Mais Descartes, il fait une autre idée. On peut dire les plus modestes, mais modestie ou pas, ça n'a aucun sens. C'est plus « je ne veux pas être trompé », c'est « je ne veux plus me tromper ». Je ne veux plus me tromper. Et c'est que pour Descartes, ce n'est pas tellement les prétendants, il y a ça chez Descartes, il y a tout un aspect, oui. Oui, il y a les gens qui nous trompent. Par exemple, la scolastique nous trompe. Mais pour Descartes, finalement, si on se laisse tromper, si on est trompé, c'est parce qu'on se laisse tromper. En d'autres termes, on se trompe. On se trompe. Et on ne serait jamais trompé si on ne passait pas son temps à se tromper. Sentez que c'est un autre chronotope. C'est pourtant une banalité entre... Et là, je fais appel... Je crois qu'il y a des caractères philosophiques. Il faut distinguer votre caractère psychologique et votre caractère philosophique. L'idéal est de ne plus avoir de caractère psychologique et de n'avoir qu'un caractère philosophique. Cet idéal est rarement rempli. On appellera grands philosophes ceux qui n'ont plus de caractère psychologique. En termes kantiens, on dirait il ne faut plus avoir de caractère empirique, il faut n'avoir de caractère que transcendantal. Et bien, alors, c'est difficile d'abandonner tout caractère. C'est difficile de piétiner le caractère. C'est la tâche ultime, enfin, c'est la tâche à laquelle la philosophie vous convie. Cesser d'avoir un caractère, c'est la seule manière de devenir un événement. Je ne vais pas dire un événement historique, parce qu'un événement historique, ce n'est pas intéressant. Mais c'est la seule manière de devenir comme un courant d'air. Bon, ça, c'est bien. C'est le caractère philosophique. Bon. Alors oui, mais je disais ça parce que... voilà que Descartes, il dit bien sûr, les gens, et peut-être même Dieu. Pourquoi Dieu serait-il pas trompeur? Et dans les méditations, il passe par, suivant l'ordre des raisons, c'est-à-dire suivant un avant et un après, il passera par deux hypothèses formidables, l'hypothèse du malin génie et l'hypothèse du Dieu trompeur. Première hypothèse, il y aura un malin génie qui nous tromperait. Deuxième, Dieu lui-même serait trompeur. Ce n'est pas la même hypothèse. Il y a un ordre des raisons qui nous fait passer, mais c'est de pire en pire. Donc, il reconnaît que la possibilité qu'il y ait des puissances qui nous trompent. Mais pour lui, une puissance qui nous trompe, c'est toujours. En fait, l'avatar d'un acte par lequel je me trompe. Et son problème, et pourquoi? Je dis ça à l'air modeste, à dire je me trompe. Mais pas du tout, comprenez ce qu'il a dans la tête Descartes. Il ne le dit pas, il n'a pas à le dire, c'est à nous de le dire pour lui. L'autre, là, le Platon, il disait, il y a tous ces prétendants, je ne veux pas être trompé par eux. Descartes, lui, ça m'intéresse. Ça l'intéresse que secondairement, qu'il y ait des prétendants qui nous trompent. Ce qui l'intéresse, c'est que quand je suis trompé, ce soit encore une manière de penser. C'est ça son truc. C'est ce qu'il dit toujours, mais c'est très concret ce qu'il dit là. Que vous vous trompiez ou pas, vous pensez. Parce que se tromper, c'est encore penser. Si bien qu'il n'y a qu'une chose où vous ne pouvez pas vous tromper, c'est quand vous dites « je pense ». Pourquoi ? Parce que se tromper, c'est penser. Si se tromper, c'est penser, vous ne pouvez pas vous tromper quand vous dites « je pense ». Alors c'est très intéressant ça. Le « je me trompe », ce n'est pas une déclaration de modestie. C'est la seule manière pour lui de pouvoir mettre l'erreur et de concevoir l'erreur comme une façon de penser. Dès lors, toute sa méthode va partir de là. Quelle est la première certitude? La première certitude, c'est que je pense. La preuve que je pense, c'est que je me trompe. Voyez que le passage de « on me trompe » à « je me trompe » lui permet de découvrir l'erreur comme un mode de la pensée. Et c'est ça que toute sa méthode suppose. Tout l'ordre des raisons chez Descartes partira de là et va engendrer les méditations. C'est donc très important pour lui qu'ils ne vivent pas à la manière de Platon. L'image de la pensée chez Platon, c'était, mettons, on me trompe, on trompe Pénélope. L'image de la pensée chez Descartes, c'est je me trompe. Et c'est du vécu, c'est... bon. J'en ai pris trois, c'est pas par hasard, je pourrais continuer très longtemps, mais il y en a marre. J'en ai pris trois parce qu'ils vont bien ensemble, vous pouvez vous-même inventer. Alors ce que j'appelais des cris, c'est ça. Des cris, en effet, c'est l'énoncé des chronotopes. Il y a des prétendants. Comment distinguer entre les prétendants? C'est un cri. C'est un cri philosophique. Le reste, c'est les concepts. Je ne dis pas que les concepts découlent des cris, je dis que, en tout cas, les concepts présupposent les cris. Encore une fois, c'est le rapport champ-cri qui est fondamental, aussi bien dans le monde animal que dans le monde philosophique. Oui, il ne suffit pas de crier pour faire de la philosophie, parce que crier, crier, c'est compliqué. Enfin, je dis le troisième, vous pouvez l'inventer vous-même. Quand je prends l'exemple de Kant, lui, son affaire, c'est vraiment l'affaire de quelqu'un, l'affaire d'une pensée. Une pensée à faire. Votre pensée, c'est ce avec quoi vous avez à faire. Il faut que vous le trouviez, ça personne ne le trouvera pour vous. Et lorsque vous aurez trouvé ce avec quoi vous avez à faire, peut-être que vous en serez à moitié conscient. Et bien là, je peux dire, vous, à ce moment-là, vous êtes philosophe. Vous êtes philosophe, je crois que c'est ça, là. Vous êtes philosophe, même si cette affaire n'est pas philosophique. Mais c'est rare, les gens qui ont trouvé ce à quoi, ce avec quoi ils ont à faire. Je crois que c'est très rare. Ça illumine les jours. Les gens, ils seraient beaucoup plus gais s'ils savaient à quoi ils ont affaire. Alors, il y a des choses à quoi l'on peut se demander, est-ce que l'on peut avoir affaire avec, au sens propre de l'avoir affaire. Là aussi, ça renverrait à des analyses de présupposés. Par exemple, peut-on avoir affaire avec la mort? Bon. Hein, tout mon caractère philosophique nie que la mort puisse être une affaire et qu'on puisse avoir affaire avec la mort. Seul le névrosé a affaire avec la mort, mais justement le névrosé ne sait pas à quoi il a affaire. Mais il y a des grands philosophes qui ont pensé que la mort était une affaire, c'est-à-dire que la pensée avait affaire avec. Ça se peut, donc tout ça, c'est des tâches infinies. Mais je dis le troisième, là, qu'est-ce qu'il peut dire, puisqu'il ne dit plus « on me trompe » et il ne dit pas « je me trompe ». Vous voyez déjà que dans les deux cas, vouloir la vérité a deux sens. Vouloir la vérité, ça ne veut rien dire, vouloir la vérité. Tout dépend ce qu'on met là-dessous. On vient de voir que pour Platon, vouloir la vérité, c'est vouloir ne pas être trompé par les faux prétendants. Là, ça veut dire quelque chose. D'accord. Mais si vous ne vivez pas ce problème-là, vous ne voulez pas la vérité de cette manière. Descartes, il veut la vérité. Ce n'est pas étonnant qu'il trouve une autre vérité. Comment vous voulez vous étonner que Descartes ne soit pas d'accord avec Platon? Mais il ne pose pas le même problème. L'étonnant, ce serait qu'il soit d'accord. Alors vous me direz, bon, ben, au moins qu'ils règlent leur problème. Ils ne peuvent pas régler leur problème. Pourquoi? Parce que ce qui est vrai ou faux, c'est une solution. Un problème, par définition, il n'est pas vrai ou faux. Il est bien ou mal posé. Bon. Mais ça ne veut pas... Je peux toujours définir la vérité d'une solution en ceci, qu'elle effectue les cas du problème. Mais le problème, lui, je ne peux pas définir une vérité du problème en tant que tel. Je peux définir d'autres choses quant au problème. Bien ou mal posé, c'est vague, intéressant, important, au sens où Kierkegaard disait, l'important, l'intéressant, ce sont des catégories de la philosophie. Vous lisez des pages, parfois des pages et des pages, elles ne sont pas fausses, elles sont sans intérêt, c'est pas intéressant. On n'y peut rien. Alors si là-dessus, si le type vous dit, ah ben quoi, dis-moi pourquoi. On est embêté. Difficile de dire en quoi quelque chose n'est pas intéressant. Je peux dire en quoi quelque chose est faux. Ça c'est agréable. C'est de rares moments. comprends pas, quelque chose n'est pas intéressant. Oui, c'est pas très intéressant tout ça. Dur à dire, dur à prouver, c'est pas du domaine du prouvable. Non. La question c'est ratée, pas vécu. Pas vécu, bon, tant pis. C'était pas ton affaire. Tu t'es mêlé de ce qui te regardait pas, quoi. Ou t'y crois pas toi-même. Alors, Kant, lui, la réforme est passée par là. On pourrait toujours trouver des facteurs sociologiques. Je disais, pour la situation de Platon, le facteur sociologique, c'est la démocratie athénienne. C'est la cité grecque. Bon, d'accord. C'est le monde des prétendants. Kant, on pourrait dire, ah ben la réforme est passée par là. Lui, c'est pas, on me trompe, je ne veux pas être trompé. Oh non, Kant. Mais Kant, c'est pas non plus. Je ne cesse pas de me tromper et je veux ne plus me tromper. C'est pas ça non plus. Kant, il a appris la rigueur morale. Et quand il dit « je veux la vérité », il dit quelque chose qui ne serait pas venu à l'esprit des deux autres. Il dit « je ne veux pas tromper ». Et rien ne fera. Et je tiendrai bon. Et rien ne fera que je trompe. Il faut s'incliner devant. L'apparition en philosophie de la créature morale, de l'espèce morale. Vous me direz, mais tous les gens qui ont un peu de moralité, ils disent comme Kant. Mais non, ils disent comme Kant. Bien sûr, tout le monde dit comme Kant. Tout le monde dit comme Descartes. Tout le monde dit comme Platon. On dit tout à la fois. Mais avec quoi avez-vous affaire, principalement ? Avez-vous affaire en vertu de votre caractère philosophique ? Ah, je ne veux pas être trompé. Ou à je ne veux pas me tromper. Ou à je ne veux pas tromper. C'est que c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même manière de vivre vos rapports avec la vérité. Je ne veux pas tromper. Quelle drôle d'idée. Alors il a fallu attendre la réforme. Quand ? Ben oui, il a fallu attendre la réforme. Vous me direz, mais enfin, au moment de la réforme, les trompeurs, mais qu'est-ce que ça peut faire ? Bien sûr, il y a autant de trompeurs qu'avant. Mais même le trompeur sera forcé de dire, je ne veux pas te tromper. Il faudra qu'il passe par ce nouveau langage. Je ne veux pas tromper. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et qu'est-ce que ça implique de nouveau ? Santé, quel est le chronotope. Il suffit que je dise, c'est ça en philosophie, il faut que vous vous rendiez compte que la proposition la plus quotidienne vous engage. Comme dit l'autre, vous êtes embarqué. Vous croyez dire quelque chose d'innocent, même qui va de soi. Dès le moment où vous avez trouvé votre propre affaire, plus rien ne va de soi. Plus rien. Plus rien n'est sujet à discussion. Vous ne discuterez jamais en philosophie. Mais plus rien non plus. Plus rien ne va de soi. Rien ne se vaut. Je ne veux pas tromper. Quelle curieuse, comme ça sonne étrange, je ne veux pas tromper. Comprenez. C'est la subordination de la connaissance à la morale. En termes plus techniques, c'est la subordination, en termes kantiens, de la raison spéculative à la raison pratique. Je ne veux pas tromper, engendre bien. la recherche de la vérité, c'est-à-dire l'opération de la connaissance, mais la soumet étroitement à une finalité pratique, morale. C'est le renversement, un des nombreux renversements kantiens, à savoir, ce n'est plus la morale ou le bien qui dépend de la connaissance, au sens où est vertueux le sage, est vertueux celui qui connaît. Mais renversement radical, où la connaissance est subordonnée à une plus haute finalité, la finalité de la raison morale. Subordination de la première critique à la seconde critique, c'est-à-dire de la critique de la raison pure à la critique de la raison pratique. Alors pourquoi il ne veut pas tromper ? Là, il a une idée. Il a une idée qu'il aperçoit à peine. Et il lui faudra toute sa méthode pour la développer explicitement à travers ses livres. Et cette idée, si j'essaie de la résumer, elle revient à nous dire « Seuls des êtres qui ne trompent pas sont libres et à titre d'être libres, constitue une nature intelligible. » Alors là, je suis en train de parler, mais je fais exprès un langage inintelligible pour un non-philosophe. Seuls des êtres moraux constituent une nature intelligible. C'est très nouveau. En d'autres termes, la nature intelligible n'est plus faite d'essence, comme aurait dit Platon, elle consiste dans la communauté des êtres moraux. C'est eux qui constituent une nature intelligible. Tout est transformé, etc. Bon, à la limite, ils n'ont plus du tout le même langage. Mais comprenez que ça part d'un changement dans l'image de la pensée. Je ne veux pas tromper. Alors j'insiste là-dessus. Bon, et puis, il y aurait toute une suite. Il y aurait toute une suite, bon, peu importe. Mais il va de soi que là, j'ai pris trois philosophes. Bon, trois images à la pensée différentes. C'est pas au niveau de leur méthode. Il faut faire l'inverse. Vous ne pouvez comprendre leur méthode. Vous ne pouvez comprendre le développement et l'enchaînement de leurs concepts. Les concepts ne font que remplir un espace-temps mental suivant l'ordre de l'avant et de l'après, suivant l'ordre des buts, des moyens et des obstacles. Mais tout ça renvoie à une image spatio-temporelle préalable. Il faut que vous dessiniez. Il vous faut la géographie de cette image préalable. Il vous faut la carte de cette image préalable. C'est-à-dire ce continent. Ce n'est pas le même continent. Ce n'est pas le même espace-temps, celui où se dresse un homme qui dit « Je ne veux pas être trompé », celui où se dresse un homme qui dit « Je ne veux pas me tromper » et celui où se dresse un homme qui dit « Je ne veux pas tromper ». Alors, c'est en sens, je ne sais pas si celui qui voulait, si j'ai répondu à celui qui souhaitait que je m'explique un peu sur ce point, j'en peux plus. De toute façon, j'en tire ceci. Voyez, est-ce que j'entends par cette image de la pensée qui préexiste à l'exercice explicite de la pensée? Alors, tout mon sujet, je reprends cette année pour faire la charnière. Vous comprenez peut-être mieux quand je dis, bon, Il y a en effet une image de la pensée. La pensée ne peut pas fonctionner sans présupposer une image d'elle-même.
Bien.
Eh bien, mon thème de cette année, encore une fois, c'est une fois dit que l'image cinématographique a des caractères très particuliers, quel est son rapport avec l'image ou les images de la pensée? Est-ce qu'elle a agi sur l'image qu'on se fait de la pensée? En quel sens? Quelle image? C'est tout ça que on a commencé à chercher. Et je disais, tout mon thème de départ, ça n'a été que ceci pour le moment. Eh bien oui, si vous m'accordez que le caractère le plus général de l'image cinématographique, c'est d'être automatique, que c'est ça qui la distingue de l'image picturale, de la photo, de l'image photographique, de toutes les autres images, elle est automatique. Ben comment l'image automatique ne rencontrerait-elle pas, sur des modes à préciser, le double automatisme qui appartient à l'image de la pensée, à savoir l'automatisme psychologique et l'automatisme logique? On avait vu en effet que l'image de la pensée comprenait deux automatismes, le psychologique et le logique, très différents l'un de l'autre. Eh bien, on se trouvait dans cet ensemble de problèmes et on avait commencé. Et on avait commencé en disant, oui, mais attention, il y a des mutations, il y a eu des mutations dans l'image de la pensée, je viens de donner des exemples de mutations. Et on en était là-dedans quand la semaine dernière, la confusion m'a pris, que je me suis lancé dans des développements difficiles à suivre, en tout cas, il me semble. Là-dessus, pour en finir avec ces récapitulations, j'ai déjà perdu beaucoup de temps. Il n'y a pas de problème, c'est clair tout ça? Bon, Comtesse m'avait dit qu'il voulait reprendre un point du début aussi. Il n'est pas là? Si, il est là? Il est là? Tu veux reprendre un point du début? Vous fumez pas, hein, vous allez fumer tout à l'heure, hein, dans la cour. Hein.
Ouais. Je voulais reprendre deux points dans le premier discours que tu as tenu sur à la fois Elie Borg, tu as parlé des pionniers du cinéma et donc de la nouvelle image de la pensée. Et puis, un autre point sur Eisenstein. Ce qui s'est passé concernant justement la pensée du cinéma d'Eisenstein au sein du congrès de 1935. Il a été soumis justement au tribunal de la raison socialiste. Sur le premier point, c'est-à-dire sur Elie Borg. On peut dire par exemple que d'après les écrits d'Elie Borg, parce qu'il y a fonction du cinéma, on peut très bien conclure, selon ce pionnier, puisque c'est employé le mot, que le cinéma, c'est une révolution dans la pensée, une nouvelle image, une nouvelle façon de penser. Mais on peut dire justement, et en se référant à Elie Borg, on peut dire tout aussi bien que le cinéma et la reconduction d'une ancienne façon de penser en dépit justement d'une difficulté ou d'une impossibilité presque parfois de relancer cette ancienne façon de penser. Parce que Elie Borg, s'il intéresse Elie Borg dans son rapport de la pensée et du cinéma, c'est justement une certaine catastrophe. Et pour reprendre par exemple les termes que tu emploies en référence à Bastine, on pourrait dire que c'est la catastrophe qui l'intéresse du chronotope métaphysique. c'est-à-dire de l'espace-temps de la pensée métaphysique. Et il fait à partir de là du cinéma ce qui reconduit, ce qui recompose, ce qui recrée des valeurs métaphysiques par une sorte de reconstruction du chronotope qui s'est effondré. Le chronotope n'est plus justement, et c'est ça une pensée très singulière des Lippor, le chronotope n'est plus la dimension constituante ou même constitutive de la pensée, ce qui secondariserait par exemple le pas, la voie, le chemin, le méthodos, la méthodologie. Car ce qui se perd, ce qui se défait, dit Lippor, ce qui s'effondre, c'est l'unité même de l'espace-temps, c'est-à-dire l'unité de l'homme, le sens de l'être de l'homme, la présence d'esprit de l'être en mouvement, ou bien comme il dit, la forme du mouvement comme forme de vie. Et ce qui se défait avec cet effondrement du chronotope de la pensée métaphysique, c'est la voix même qui soutenait tout contenu justement de cette pensée métaphysique. La voix, dit-il, ne s'accorde ni avec l'expression, ni avec le geste, ni avec l'être, ni avec la forme de l'homme en mouvement. Donc, le premier temps chez Lippor, c'est littéralement un effondrement, une catastrophe du chronotope de la pensée métaphysique. La catastrophe du chronotope, c'est ce qu'il appelle cette monstrueuse négation de l'unité. Elle précipite dans cet effondrement du chronotope métaphysique, elle précipite littéralement dans ce que Lippor appelle, et ça c'est une notion très importante chez lui, il appelle ça l'inertie de l'univers nocturne. Il y aurait donc dans la fin presque de la métaphysique comme une précipitation dans l'inertie de l'univers nocturne, et c'est un univers sans espace-temps, sans mouvement, sans pensée de l'être ou de la vie. De sorte que, à partir de là, et si on voulait par exemple, dans cette découverte chez Lippor de la catastrophe du chronotope et de cette précipitation dans un certain univers, eh bien, le cinéma ne peut plus être pour Lippor ce qu'il était, par exemple, chez Deluc, chez Canudo, ou bien chez Moussinat, c'est-à-dire les premiers grands critiques de la série française. Le cinéma, par exemple, n'est plus seulement, comme chez Deluc, l'arrachement au chaos de boue ou l'élévation vers la lumière du tout complet, c'est l'expression même de Deluc. Il n'est plus, comme chez Canudo, justement, le miracle visuel ou l'expression de la vie lumineuse en mouvement. Il n'est plus, comme chez Moussinac, le soutien